Bon ben on va aborder maintenant le chapitre londonien.
Oui, un jingle.
Donc alors ce qu'on a fait déjà, c'est vrai que à l'origine ce chapitre contenait plusieurs scénarios fausses pistes. Il y en avait une
De qualité
avec une histoire de loup-garou et puis une autre de créature dans le brouillard. Et la dernière, donc, on a conservé par contre, qui concernait donc, l'homme serpent et le peintre. Mmh. Donc c'est vrai que donc on a fait un peu du ménage au niveau des fausses pistes parce que bon, on estimait que ça ralentissait un peu le cours du récit, ça apportait rien. Donc
c'était pas vraiment dans l'ambiance.
On avait décidé de conserver juste celle avec l'homme serpent qui nous paraissait pertinente en termes d'ajout de modification donc pour ce chapitre-là.
Alors, en plus de cette fausse piste, pour les pistes principales et les méchants, les ennemis, on a quand même rajouté ce qu'on a appelé la brigade légère de Gavigan.
Voilà, donc là il s'agit de trois personnages qui manquaient à la campagne, parce qu'en fait Jackson Elias était poursuivi, mais on ne sait pas trop par qui. On savait qu'il y avait des sbires du culte qui étaient à ses trousses. En fait, ce sont donc ces personnages-là, ce sont eux qui étaient venus dire au culte de la langue sanglante que Jackson Elias était revenu à New York pour qu'ensuite il l'assassine. Et de retour à Londres, si jamais les investigateurs sont indélicats face à Gavigan, Gavigan va mettre ces trois personnages-là à leur trousse. Et ensuite, on peut continuer à les conserver comme personnages récurrents en se déplaçant de continent en continent.
Dans l'ombre.
Ils ont le
bras long, ils peuvent se déplacer et auront. Ce n'est pas du cultiste de base.
Voilà, c'est aussi un point, enfin, c'est un petit peu en relation on va dire, avec l'Australie, où on envisageait que ce soit les responsables australiens qui puissent lancer une action vers les investigateurs, sauf qu'en fait le culte australien est bien occupé de son côté et un petit peu à l'écart. Donc c'était beaucoup plus logique que Gavigan, qui lui au contraire a les mains libres et n'a rien de particulier à faire, prenne cette responsabilité-là. Et à partir du moment où les investigateurs deviennent trop présents, il envoie ses hommes.
Est-ce que tu peux développer aussi un point non négligeable de l'ajout, c'est l'interaction qu'il y avait entre Londres et Tufik.
Voilà, donc Tufik et Gavigan donc sont un peu tous les deux à la tête en fait de la fraternité qui sévit à Londres. On va dire l'un parce qu'il a la fortune, l'anglais. Et l'autre parce qu'il est le lieutenant du culte, l'Égyptien. Et donc tous les deux se retrouvent en concurrence pour vraiment être responsable du culte. Donc ça peut donner des avantages à certains moments aux investigateurs selon la manière dont le gardien
se retrouve en jouer,
quelque chose, voilà, pour en jouer. Et ça peut même aider les investigateurs à certains moments.
Alors, surtout que, ils vont arriver à la fin que l'on connaît dans la maison Mistre, un endroit que l'on a décrit, que l'on a situé, enfin, on sait ce qu'à quoi ressemble l'Essex, c'est gros et poli, non, je déconne, on sait que ça se situe sur la côte est de l'Angleterre, le côté marécageux et tout ça, et on a même fourni à vos équipes une aide non négligeable, n'est-ce pas Yoda, en la matière des bobbies. Ce groupe de bobbies qui peut venir si vous sentez vos investigateurs partir vers autre chose que monter dans la camionnette de la pyramide bleue et arriver là-bas, ou alors suivre une des camionnettes et finalement rester en planque. La scène est quand même assez délicate. On a eu beau revisiter un peu le nombre de monstres et tout ça, elle en reste pas moins mortelle. Et là, vous avez sous le coude une bonne troupe de bobbies. Pas forcément imbibé, mais disons assez, assez motivé et assez ignorant de ce qui peut se passer dans le château pour venir aider vos investigateurs, et ce qui peut faire tout à fait une nouvelle fin. Et comme on nous l'avait proposé dans les forums, l'un des investigateurs peut tout à fait avoir été enlevé carrément, et ce sont les bobbies qui vont finalement mener un assaut contre la maison pour venir libérer
une force de frappe, ou bien au contraire, malheureusement pour eux, un moyen de détourner les monstres des investigateurs.
Voilà, à double tranchant.
Vas-y.
Sachant quoi, effectivement, comme on l'a indiqué, c'est qu'on a revu un peu à la baisse le niveau des monstres au chapitre londonien, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine incohérence et une certaine force de frappe qui était un peu trop violente vis-à-vis des investigateurs et qui risquait en fait d'en faire de la chair à pâter. Donc du coup, on a un peu harmonisé et revu à la baisse cette force de frappe afin de rendre un peu le tout plus cohérent.
Petit élément complémentaire, une petite parenthèse, on a revu aussi la partie du vent d'ivoire, puisque c'était au final un élément qui était abordé uniquement à Londres, alors qu'au final il dessert quand même les ports de Port Saïd et de Shanghai, donc un élément quand même qui relie trois destinations très importantes. Donc ça a été renettoyé et surtout réexpliqué de manière à ce que le gardien et joueur comprennent qu'il y a peut-être un lien entre ces trois destinations.
Donc ensuite, on arrive dans le chaud désert de l'Égypte avec le Caire. Donc, un gros chapitre qui était surtout en fait
le bordel.
Un gros souk.
Qui dit le souk ?
Avec tout mélangé dans tous les sens, très difficile à comprendre, et du coup, un énorme travail de refonte, Yodal.
Gros travail de refonte, parce que tous ceux qui l'ont lu s'en souviennent ou ont oublié, parce que c'était très confus. Il y en avait partout, dans tous les sens, et donc voilà, je reprends les mots de Dem, hein, qui on a tout reventilé, tout complété, et tout beaucoup réécrit de paragraphes, pour mettre en exergue les rôles de chacun et les éléments qu'on pouvait trouver, parce que tout ce qui était pyramide n'était pas forcément clair. Certains se rappelleront de la pyramide
rotondale,
voilà. Après, tu entends la pyramide rouge, tu entends la pyramide inclinée.
Elle est rouge, la pyramide inclinée.
beaucoup de confusion, donc ça a été vraiment éclairci en profondeur.
Et surtout que la trame se déroule sans les investigateurs. Ils ne sont pas le centre d'intérêt.
Ce qui était le cas de la précédente version.
Voilà, en réalité, ils viennent être. Ils se trouvent être le grain de sable. Rigoler. Le grain de sable dans les fameux rouages de la fraternité. Donc c'est vrai que au-delà de la réorganisation et de la réécriture et des explications, plus des ajouts comme d'habitude comme à chaque fois sur le cadre.
Et énormément d'informations rajoutées sur Port Saïd et Alexandrie.
C'est vrai, on était téléporté au milieu des pyramides.
Ouais. Et donc on a tout complété. Il y a un gros boulot là-dessus. Bon, on ne développera pas parce que c'est du contexte, on ne revient pas sur le contexte, mais énormément d'informations là-dessus.
Et tout ça pour permettre en fait déjà qu'un enchaînement des informations et du récit de l'aventure qui soit clairement plus cohérent que ce qu'on avait auparavant, puisque c'est vrai que c'était un peu dispatché différents éléments, différents endroits du chapitre. Et c'était clairement pas évident pour s'y retrouver.
Il n'y a plus de téléportation entre Londres et le Caire.
Et on vous a pas. Et en plus, on vous a pas donné. Enfin, on vous donne d'autres possibilités que de gérer la fameuse scène de l'apparition de Nyarlathotep,
oui.
Qui, pour ma part, m'a valu bien des déboires. Et on vous propose d'autres. Il est bientôt là. On vous propose d'autres façons d'aborder cette scène où, quand même, les investigateurs sont censés rencontrer un dieu. Et
ce n'est pas anodin.
Voilà, ce n'est pas anodin, et c'est vrai que c'est amené de façon très très dongesque avec cette espèce de pseudo mise en scène, enfin, sans vraiment d'intérêt.
Après, si je me souviens bien aussi, on a retravaillé un petit peu certains des les premières aides en fait sur place des investigateurs. Parce qu'ils se retrouvent à devoir interagir à un moment donné avec des musulmans. Des personnages qu'on retrouve dans une mosquée et qui doivent les aider, qui doivent se mettre d'accord, voilà, pour lutter contre la réapparition de la reine Nitocris. Et là, toute cette partie-là aussi était vraiment difficile
à
mettre en œuvre, à démêler.
Mal traduite.
Et puis aussi, c'était pas placé dans un mode de fonctionnement historique. C'est-à-dire que les éléments, le déroulement du scénario n'était pas dans le déroulement normal de l'histoire. l'histoire telle que les investigateurs pouvaient le vivre, mais c'était plus des petits ajouts à droite à gauche, donc tout ça n'avait pas vraiment de cohérence. Donc là on a refait quelque chose en monologue, là où on explique vraiment à quel moment ils servent, comment ils sont susceptibles d'accueillir les investigateurs et de quelle manière ils pourraient accepter de les aider.
Bon, là, on continue avec l'Afrique.
Saga Africa.
Et on arrive au Kenya. Alors, au Kenya, bon, c'est pas très compliqué. Au début, il n'y avait rien. Donc, on a récupéré la campagne. C'était plutôt venteux et très creux. Bon, affaire à suivre. Et puis,
pour le montage, je vais en voir.
Comme disait Dave, on résume en un mot. Passage suivant. Là, c'est deux mots.
Impossible à décrire. On ne savait pas comment le décrire.
Oui, parce que cette époque-là, les données sur 1920 sur l'Afrique, à cette époque, c'était pas facile à trouver.
Des PNJ qui sont axés sur l'opposition blanc-noir, mais qui n'ont aucun rapport avec le mythe et l'aventure en elle-même.
Donc là, on a gratté, on vous a trouvé plein de choses. On vous a trouvé des trucs super. Et on a même profité pour ajouter une existence réaliste à Mombasa, puisque c'était vraiment juste un semaine de passage au départ. On se retrouvait téléporté rapidement à Nairobi, sans comprendre ce qui se passait à Mombasa. Donc on a développé cette ville pour expliquer au moins aux joueurs que les échanges qui peuvent se faire par les registres, on en a déjà parlé, tous les échanges interocultes se passent et transitent par Mombasa, qui ensuite achemine tout le matériel jusqu'à Nairobi. Donc
ceci grâce
aux jumeaux Carter, à toi.
Parle des jumeaux.
Oui, donc en fait c'est vrai qu'au départ donc à Mombasa, donc on avait Tambour Singh, donc le fameux épicier qui tenait sa boutique. Et assez vite, comme c'était la seule force en présence sur cette ville susceptible de mettre des bâtons dans les roues des investigateurs.
Mais pas assez, on l'a multiplié.
Voilà, on a décidé en fait de
deux Tambour Singh.
Voilà, deux Tambour Singh pour le prix d'un. À savoir donc. On est parti donc pour transformer donc Tambour Singh en l'identité de deux frères jumeaux, Vikesh et Haresh Singh, si je n'abuse. Donc chacun endosse l'identité de Tambour Singh au besoin, pendant que l'autre puisse continuer à vaquer aux occupations
de l'insecte. Un gros ressort scénaristique qui peut finalement vous amener à faire du Kenya un scénario parmi les meilleurs. Enfin, le fait que cette personne que les investigateurs vont toujours retrouver sur leur route, mais qui à chaque fois aura un petit moment d'avance ou sera au courant de ce qui s'est passé avant, c'est un risque, enfin, à vous de jouer avec.
Ça va surprendre, mais passer du temps à bien réfléchir à l'exploitation de ce ressort scénaristique.
Voilà, parce que donc on l'a revu eux deux, et on a aussi passé un coup de polish sur le vieux Bundari. Le vieux Bundari, souvenez-vous, hein, cette espèce de d'homme à mi-chemin entre un sage et un vendeur du téléachat. Voilà, une sorte de
performance kényan
avec Marise, apporte-moi la tapette à mouche. Donc fini ces conneries, la tapette à mouche, le reptile qui n'est pas
celui... Le caméléon géant.
Voilà, le caméléon géant qui est censé aider les investigateurs et moi qui les avais toujours fait rire. Non, le vieux Bundari est à nouveau, a repris ses vraies fonctions d'un espèce de mystique animiste au fin fond de la forêt kenyenne et qui, bon, on ne peut pas tout vous dire non plus ce soir, mais qui va offrir un vrai cadeau. Et quand on dit un vrai cadeau aux investigateurs, c'est forcément, vous commencez à nous connaître, un cadeau à double tranchant. La part qui devra les aider pourra aussi se retourner contre eux parce que, comme on vous l'a dit et on vous le rappelle, c'est que le Kenya fait partie des trois chapitres qui peuvent servir de fin à cette campagne. Non pas qu'ils n'ont pas plus loin que le Kenya, mais on peut boucler la campagne après les cinq premiers chapitres par le Kenya. Et je pense que la revue du sacrifice final et de la scène finale est pour cela très importante.
Voilà, en effet. Donc on avait jusqu'à présent, le point principal du Kenya, c'était surtout la grosse cérémonie qui permettait la naissance du rejeton. Sauf que cette naissance se situe quelques mois avant la cérémonie définitive qui est celle de l'ouverture du portail, et là, moment où le rejeton est adulte. Sauf que cette partie-là avait été complètement oblitérée dans la version originale, et ce manque est absolument insupportable. Ce devait d'être comblé.
Et sans rêver, Toc l'a fait.
Et Toc l'a fait. Donc, On explique suite à sa naissance comment le rejeton ensuite va être amené à se développer, à grossir et au final être celui qui mène ce grand rituel d'ouverture du portail et jusqu'à également se débarrasser de Moero qui finalement nous gêne.
Méradigne.
Méradigne. Voilà, Méradigne, je te mange, ça va.
Donc là, on a vraiment basé sur le côté un peu tribal, la nature et ce genre de choses. On a gardé cet aspect du scénario. Et là, on a une vraie fin cataclysmique avec cette pierre angulaire. Donc, on vous a dit, hein, les trois, on va attaquer les deux autres maintenant. Mais les trois angles de finalement cet immense portail, cet immense plan de Nyarlathotep pour venir à bout de l'humanité.
Ouais, si jamais effectivement les investigateurs arrivent au Kenya, on va dire plutôt vers la fin, au moins il se passe quelque chose maintenant.
Quelque chose de grandiose.
Et en respect avec le thème, nous sommes dans le tribunal.
Exactement.
Petit nota que vous remarquerez, certains se souviendront que la scène du charnier était, comment dirais-je, pas très très claire. On ne savait pas qui avait découvert quoi, à quel moment, pourquoi, est-ce qu'il y avait les corps ou pas. Mais voilà, ça, on l'a repris de manière claire et pour que tout le monde comprenne réellement ce qui s'est passé.
Voilà, et c'est maintenant que nous abordons ce nouveau continent, l'Australie. L'Australie, c'est des didgeridoo, c'est kangourou boxeur et farceur.
Nous prends pas pour des cons, Marie. Toi qui as beaucoup bossé sur l'Australie,
il a tout perdu là.
Quoi de neuf en Australie dans cette nouvelle version des masques?
On peut dire à peu près tout.
Ah oui?
Donc voilà, parce que l'Australie initialement c'était cette repompée de Terror Australis, hein, qui de toute façon était lui-même tiré initialement de ce travail des masques, mais qui n'avait pas été mis dans la version originale, qui a été ajoutée dans la seconde édition, dans le livre. Donc l'Australie, en fait, était un petit peu bancale. Pourquoi ? Parce qu'on arrive par différents bouts de l'Australie. Ensuite, on découvre la petite ville de Kukunjuri pour ensuite s'enfoncer dans le désert et se retrouver dans la cité sous les sables.
Impossible de savoir par où on est passé.
Voilà, impossible de savoir par où on est passé, manque de détails. Et surtout, une fois dans la cité sous les sables, finalement, on se retrouve face à Houston, on dégomme Houston, et c'est fini, au revoir.
Ah ben voilà. Enfin, cela dit, Houston qui accueille les investigateurs avec du thé.
En effet, très, très, très accueillant, cet ancien psychologue devenu totalement fou, mais un hôte...
De grande classe.
De grande classe, on peut le dire.
Donc, premier point sur lequel on est revenu au niveau déjà des pistes et des pistes secondaires.
Donc au niveau des pistes, alors surtout pistes, on a ajouté en fait surtout le rêve de Bunyip, qui est un scénario qui était disponible précédemment uniquement dans Terror Australis, parce qu'on n'avait pas de véritable fausse piste jusqu'à présent. Donc en plus, on l'a relocalisé, rêve de Bunyip, de manière à pouvoir le jouer un petit peu dans n'importe quelle ville. N'importe quelle grande ville. Donc on l'avait dans.
Il a été relocalisé, rééclairci, corrigé. Un gros mot au-dessus, merci Carter, tu pourras me parler s'il y a besoin.
Disons que c'est vrai qu'on l'a délocalisé, pour. Disons que surtout par rapport aux différentes villes évoquées dans le chapitre australien qui pouvait amener donc à Kukunjuri, c'est de permettre également donc avec la ville de Perth, si j'ai bien vu, également de rajouter un élément supplémentaire dans cette ville, même si c'était ça restait donc une fausse piste, un élément poulpique également dans cette ville.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement au désert de sable en passant un peu juste par une ville pour point de passage. Là, il peut se passer quelque chose et voilà, les investigateurs peuvent penser que le scénario se déroulera dans la ville et que c'est là qui est situé le grand méchant. Mais il n'y a pas que ça qu'on a rajouté.
On a rajouté effectivement tout un tas d'autres choses, donc, puisque dans le pitch initial, Houston, le grand sorcier blanc, arrive et puis remet en place le culte de la chauve-souris des sables et finalement se met à diriger tout le monde sur place. Alors qu'en fait, à l'époque, les aborigènes n'étaient pas du tout aussi accueillants face à l'envahisseur blanc, donc ça ne collait pas tout à fait et en plus, on perdait totalement l'esprit australien et la culture australienne, et notamment la partie de l'Al Sheringa, donc le monde des rêves australiens. Donc on a recadré, resitué tout ça, en rajoutant une espèce de lieutenant, un sorcier aborigène, qui fait le lien entre Houston et l'Alchiringa, et un véritable défi par rapport à l'ouverture du portail, auquel on a surimprimé le basculement de l'Australie, de sa version moderne, à la version Australie-Alchiringa, c'est-à-dire un retour de 60 000 ans dans le passé.
Aïe. Et c'est vrai que c'est là où on met un point, notamment sur le fait qu'on a voulu teinter chaque scénario avec une vraie profondeur, une vraie véritable ambiance. On vous a parlé donc de Nairobi en étant tribal, lié à la nature et je dirais à une certaine magie chamanique. Là, dans la partie Australie, on est plus dans le mystique, dans le rêve, à la culture aborigène, à la discussion avec les esprits qui, dans le cadre de la campagne, se concrétise de façon assez matérielle, on va dire. Et on a fait de Houston, alors, qui ne se déguise plus, sous de fausses identités foireuses, Tombstone.
Ce qui simplifie aussi le travail des investigateurs pour arriver à le retrouver.
Exactement, au fond de sa cité. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un méchant crédible, un méchant complètement différent de Mberu ou de personnes comme Gavigan, une philosophie complètement différente, quelqu'un qui reste posé et qui va finalement accueillir les investigateurs, non pas benoîtement, mais avec une façade de simplicité qui cache en réalité quelque chose.
Même de courtoisie, même, puisque on a décidé donc de garder tout de même précédemment évoqué dans ce chapitre, à savoir qu'en fait on a souhaité ajouter en fait le fait que Houston en fait consommait à dose modérée du cyanure.
Une espèce de Rasputin.
Oui, une espèce de Rasputin. Encore que ce n'était même pas du cyanure, c'était en fait une autre drogue en fait qui. Pour lui en fait est venu lui permet en fait de rejoindre, enfin d'essayer de rejoindre en fait l'univers du rêve pour préparer le rituel final. Et les investigateurs qui, eux, vont y goûter et risquent de se trouver dans une situation des plus inconfortables. Donc c'est vrai que c'était une idée sympathique.
Un ajout pour rendre vraiment Houston un personnage important et quand même un tantinet plus machiavélique. Hein. On n'arrive pas au cinquième chapitre d'une telle campagne pour tomber sur un espèce de crétin qui vous sert du Twinings et qui vous demande comment ça va depuis 2 mois.
Et un gros travail du coup, donc aussi avec l'ajout de la cérémonie également finale. Deuxième triangle. Du coup, en fait, on a un triptyque où on a la magie à Nairobi, on a le rêve en Australie et on a la technologie à Shanghai.
Sachant aussi que on l'a pas évoqué, mais comme ce chapitre était à l'origine le chapitre australien était un ajout. Il n'y avait aucun élément qui permettait en fait de repartir sur d'autres chapitres. Nous en avons profité également au sein du QG de Houston de fournir des fausses pistes
pour mener
des indices pour pouvoir évoluer vers notamment le chapitre chinois.
Parce que je crois que dans mon souvenir, la seule piste qui menait au chapitre australien, c'était le fait que Houston s'y était réfugié à l'origine dans la campagne.
Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de liens qui ont été rajoutés pour envoyer à New York, pour envoyer au Kenya, pour envoyer à Shanghai. Je crois même qu'il y en a par rapport au Vendivoire qui ramène aujourd'hui en Égypte. Mm-hmm. Bref, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, on compose un chapitre qui a du caractère propre, intrinsèque et qui est clair.
Alors, anciennement dernier chapitre de la campagne, mais actuellement, nouvelle possibilité de clore la campagne parmi le triptyque que vous a proposé entre Nairobi, l'Australie et Shanghai, donc le pays nous tournait en levant. Alors, derrière cette rigolade qui n'est que de façade,
se cache
une complexité qui rappelle un peu celle du Caire. Et un détricotage que tu as été obligé de faire, Carter.
Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a eu des gros soucis en fait, d'agencement et de clarté en fait, dans ce chapitre. C'est vrai que c'était un peu fourre-tout. Il y avait des choses qui étaient mal exprimées, il y avait des éléments qui étaient complètement éludés. Donc,
contradictoires.
Donc effectivement, il y a eu un gros travail de réorganisation, d'ajout. À savoir, donc, on a commencé notamment avec Machum, puisque c'est vrai que bon, bah, de la manière dont il était présenté, c'était il ne fournira aucun élément aux investigateurs,
voilà,
parce qu'il a peur. Mais malgré tout, il connaît les informations suivantes.
Bref tout.
Voilà, bref tout. Donc, arrangez-vous avec ça. Donc, c'est vrai que c'était pas clair du tout. Donc, on a déjà réorganisé la partie de Machum, à savoir, donc, il pouvait déjà, dès le départ, en fait, même s'il était réticent, fournir de fausses informations aux investigateurs. Et si ces derniers le poussaient à bout, arrivaient à pouvoir le convaincre, pouvait à ce moment-là lâcher les informations,
bon, descend,
comme on a dit, au fond, voire l'île du dragon.
Parce qu'en plus, il n'est pas. Enfin, on le constate rapidement quand on a commencé à clarifier le scénario, il n'est pas le seul PNJ, je dirais solo ou en groupe, qui va intervenir. C'est truffé de
groupuscules. Effectivement, c'est truffé de groupuscules et de PNJ.
C'est peut-être la première fois dans le chapitre de la campagne qu'on va donner à l'occasion aux PJ d'utiliser des moyens de pression pour essayer de faire jouer les groupuscules entre eux, essayer de les faire collaborer. Donc il y a peut-être une nouvelle approche qui est à utiliser pour vos groupes de joueurs pour pouvoir justement jouer ces différents cercles.
Car c'est un scénario qui se veut et qui est difficile et qu'en effet on ne va pas pouvoir résoudre de façon totalement linéaire en attendant que ça arrive, et confrontation avec au fond, je fais péter la fusée et je rentre chez mémé.
Voilà, parce que aussi le contexte politique local est très instable, donc du coup on a aussi beaucoup d'agitation. Ça a été expliqué pour ceux qui ne connaissent pas les grandes histoires. Voilà. C'est le bordel en 1920. Voilà, et là, ça a été redétaillé aussi un petit peu sur cette partie-là pour mieux comprendre comment aussi les investigateurs peuvent arriver à traverser tous ces éléments, tous ces événements, bien qu'en ayant tout un culte dans leur dos.
En fait. Tout à fait. Et comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait rapidement se servir, et facilement maintenant avec la nouvelle version, se servir de ces éléments et des antagonismes entre groupes pour finalement se retrouver avec des alliés inattendus, peut-être parfois des anciens ennemis qu'on croyait, ou alors des gens qu'on croyait des ennemis et qui vont s'avérer être des alliés pour finalement se retrouver face à au fond.
Autre élément concernant Jacques Brady. Jacques Brady était quand même très très difficile à déterrer. Et
pas mort.
et balancer énormément d'informations de manière un peu anarchique. Donc là, le travail de l'équipe a été de proposer divers axes de manière à retrouver Jacques Brady. Donc un très beau travail de déménage.
Avec la chine nouvelle, avec.
Ah oui, tous les muscles sont liés. Ouais.
Et aussi la possibilité d'aller retrouver Carlyle.
Car on a enfin les caractéristiques de celui par qui tout arrive, Roger Carlyle.
On a placé Roger Carlyle dans dans un sanatorium.
Il est bien.
Il est toujours vivant. En tout cas, au moment où arrivent les investigateurs, enfin, s'ils arrivent en Chine et à Shanghai. Et nous proposons également donc éventuellement la possibilité, donc puisque bon, c'est par lui que tout est arrivé, éventuellement d'aller le voir, d'essayer de l'interroger, même si ce sera difficile.
Il y a quelques problèmes d'étanchéité.
Et voir éventuellement d'essayer de négocier pour le rapatrier aux États-Unis.
Et là, on reboucle avec ce qu'on vous disait au début, une suite pour les masques. Repartir sur un PNJ qui fait partie de ceux qui peuvent relancer les masques. Nous, on vous propose l'option sanatorium, mais vous pouvez, le laisser dans un état mental à peu près convenable, ou même finalement vous en servir comme grand méchant pour une suite probable.
Voilà, ensuite, il y a également une petite reprise, une petite modification sur le final de l'île du Dragon Gris, donc de manière à avoir la cohérence avec les deux autres cérémonies qui se passent en Australie et à Nairobi.
Et nous avons profité également pour mettre à jour le fameux rituel que l'on peut apprendre dans les sept livres cryptiques de Tzal.
L'œil
de lumière, puisque bon, c'est vrai que nous sommes permis en fait une petite fantaisie sur ce fameux rituel.
On est comme ça.
Oui, on est comme ça. Qui donnera un petit peu de piment et de saveur lors de son exécution dans ce chapitre.
Car on vous proposait dans la campagne initiale de pouvoir le refaire, mais très honnêtement, en lisant le rituel lui-même, on voyait pas comment il était possible de le refaire une seconde fois.
Ah oui, la pleine lune, la condition était un peu particulière,
complexe.
Donc on les a édulcorées d'un côté, mais on les a rendues intéressantes de
l'autre.
La facilité a toujours son pendant. Donc voilà un chapitre qui finalement, je dirais, à la lecture des trois derniers chapitres, devient finalement le chapitre sur lequel on veut forcément finir la campagne. Parce qu'on peut très très facilement avoir envie de la finir en Australie, qui peut faire un final grandiose, ou au Kenya, qui peut être absolument monstrueux. Donc là, on a un vrai équilibrage, et on a des liens qui peuvent très facilement vous emmener donc, de Shanghai vers l'Australie, vers Perth, et vers ses destinations de Houston, et aussi vers le Kenya. Et même, on a même des liens vers Londres et vers le Caire, je crois. Grâce notamment toujours au fameux Vendivoire et au registre. Hein. S'ils n'avaient pas écrit, on n'en serait pas là.
Donc le bol de nouilles est démêlé. Et maintenant, aujourd'hui, les gardiens n'auront plus peur quand leurs PJ se prendront la direction de Shanghai, puisqu'ils pourront tout à loisir et facilement savoir ce qui s'y passe et les renvoyer vers des chapitres qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de terminer.
Chapitre donc, et introduction ont été passés en revue. Maintenant, on va attaquer une des parties, je dirais, qui pourrait, même en étant placée en fin d'ouvrage, faire partie de celles qui sont les plus importantes. Les annexes, notamment la première qu'on trouve dans tout ouvrage de son détour.
On devrait trouver. Donc, tout ce qui est index. Donc, en fait, dès que le gardien se publication sur ce qu'il cherche, ou ce dont il a besoin, il se reporte là-dedans. On retrouve de tout. Tout ce qui est les termes clés, les personnages, les différentes rubriques avec pistes et aides de jeu, les illustrations, les plans, les index, bien sûr, de tout ce qui est ouvrage impie, enco. Ensuite, on a trouvé quelque chose de très important, c'est comment bien préparer la campagne.
Donc, à ce niveau-là, on a eu beau distiller parmi dans toute la campagne des conseils un peu partout. Vous verrez, vous aurez la question du profond, des choses comme ça auxquelles on va essayer de répondre. On a rassemblé dans cette annexe donc tout ce qui concerne les inspirations, littérature, les différents livres, le cinéma, les bandes dessinées et autres. On s'est beaucoup axé aussi sur l'ambiance, notamment avec Carter et sa BO mania, avec donc les BO dont il vous a parlé, avec par thème, par endroit, par chapitre. On vous donne aussi quelques conseils de préparation pure sur la partie, comment la préparer, notamment en vous faisant référer au podcast dédié à cette partie-là. Et on terminera par le monde, un petit résumé du monde entre les années 1920 et 1925, avec des faits historiques, un calendrier pour pouvoir repérer où sont vos investigateurs, et que sais-je. Donc là, ensuite, on passe sur la partie, après avoir préparé la campagne, on va vous donner des conseils pour bien la maîtriser.
Voilà, donc là, il s'agit d'un certain nombre d'outils. Par exemple, le calepin du gardien. Et on a fourni également aussi des détails sur les modes de transport, comment se déplacer, et en particulier tous les déplacements intercontinentaux, que ce soit par bateau, par avion. Et puis également derrière des outils un petit peu plus sympathiques pour des personnages minutes, avec des informations sur dans tel pays comment les personnages peuvent se nommer, et on a aussi en même temps une section sur les langues avec des termes, des mots spécifiques,
le lexique
utilisé, le lexique exactement. pour vous permettre
de donner un peu de couleur locale. Une
couleur locale complète. Et donc, on prend une dernière annexe, cette fois, pour aller plus loin.
Bon, alors là, comme en TOC, on est pointilleux, on a fait des règles. Et quelque chose qui manquait jusqu'à présent dans les productions sans détour, c'était la gestion financière, qui n'est que peu utilisée par les joueurs depuis la V6. Donc, on vous propose tout simplement des règles pour gérer la santé financière de votre groupe durant toute la campagne. Donc ça, c'est la rubrique « Touche pas au Grisby ». Ensuite, on a des règles, encore des règles. Bon, tout ça, c'est pour aller plus loin, on est bien d'accord. Des règles avancées. Donc, des règles concernant tout ce qui est le transport, une gestion des transports maritimes et des marchandises.
Les marchandises, oui.
Ce qui nous a permis aussi de rendre très cohérents les prix dans tout ce qu'on avait mis dans les registres. Parce qu'on fait les choses bien, surtout. Ensuite, on a tout ce qui est les expressions. Le Little Fingui dans le Strait. Donc là, c'est du bon. Il y a de l'expression australienne, kenyane, il y a de l'arlemois, il y a de tout. Vous pourrez vous en donner à loisir pour rendre tous vos chapitres.
Tu peux parler la cité, quoi.
Locale.
La cité donc, dans les années 20.
Et ensuite, pour que vos investigateurs arrivent à survivre dans ces milieux hostiles, je vous passe Carter.
Oui, donc pour certains qui auraient eu entre les mains. À une époque, l'ouvrage, le supplément Terreur venue des étoiles, ils se souviendront donc qu'il contenait le manuel de Terron Marx. Donc c'était un petit fascicule de plusieurs pages qui fournissait de multiples conseils pour les investigateurs pour survivre face aux menaces du mythe. Et donc, grâce donc à Sans Détour qui nous a donné, rappelons-le, carte blanche, nous avons pu donc récupérer en fait et intégrer ce fameux manuel dans son intégralité en fait dans la campagne. Donc nous avons fait quelques petites modifications mineures et nous proposons donc deux alternatives pour le proposer aux investigateurs. La première, c'est donc de le fournir en début de campagne. Vous fournissez le petit livret à vos investigateurs pour qu'ils puissent s'en imprégner. Bon esprit. Et puis s'en servir dès le premier chapitre pour s'en sortir et survivre.
C'est le guide de survie en territoire masse.
Voilà. Sinon, une approche plus roleplay, c'est via Jonah Kensington et sa maison d'édition d'ouvrages occultes. Puisque bon, donc il dispose en fait de ce manuscrit, donc il ne connaît absolument pas la véracité, et il souhaite en fait que les investigateurs puissent se pencher sur cet ouvrage afin de déterminer si cet ouvrage est.
La véracité des
conseils. Exactement. Voilà, donc, qui fournit donc, une multitude de petits conseils pour survivre.
Et donc la dernière annexe regroupera toutes les aides de jeu. Donc, bon, comme on vous l'a dit, nous on apporte les textes, donc on compte sur Sans Détour pour nous faire des trucs vraiment terribles, bien chiadés et qu'on puisse sortir. On essaiera de vous proposer un téléchargement sur TOC pour que vous puissiez ne pas avoir à détricoter votre ouvrage pour les récupérer. C'est ainsi que on clôt ce podcast qui, là. Si à ce stade vous voulez toujours être joueur, ça va pas être facile.
Il fallait pas écouter.
Acheter la campagne et puis. Voilà.
Comme on vous l'avait dit, c'était un peu dédié aux gardiens.
Les joueurs, fallait pas écouter.
Il est un peu trop tard. De Marigny, un mot pour conclure sur ce deuxième podcast qui suit le premier qui décrivait un peu notre méthode de travail.
Là, vraiment. En ce qui concerne le résultat, un travail de qualité, quelque chose dont je pense qu'on peut être vraiment fier, avec les objectifs qu'on s'était fixés initialement, quoi, qui ont été remplis. Vraiment beaucoup d'aide pour les gardiens, beaucoup de nouveau matériel et une facilité d'accès à l'information très importante.
De ton côté, Carter, un mot de fin?
Je rejoins un peu l'avis de Marigny. C'est vrai. ça a été évoqué, donc c'est vrai que donc on a essayé de faire vraiment au mieux de nos possibilités. vraiment, comme j'aime bien le redire, mais vraiment de fournir un ouvrage vraiment clé en main qui se suffit à lui seul avec une version des règles ce V6 à côté pour pouvoir masteriser cette campagne. Et puis, tout de même, une belle aventure en ce qui me concerne, que nous avons passé à travailler sur ce monument.
Mais là, je vais faire le con. Ah. Un mot de la fin pour ton côté.
Une belle aventure humaine, hein, je rebondis là-dessus. Vous avez pas mal de choses, et puis on a aussi réalisé qu'on pouvait bien collaborer. L'équipe de Top n'a pas fini de nous surprendre. On ne sait pas encore sur quel projet on va avancer, mais ça sera du lourd la prochaine fois. Concernant cette nouvelle édition des masques, au moins on a voulu la faire à notre image, comme on aurait aimé la voir.
Belle, poilu,
poilu, barbu, ventru, il y a de tout. En tout cas, on la pense efficace et très accessible. Maintenant, écoutez, je crois que le mieux c'est d'attendre pour voir vos réactions. Et puis, écoutez, si vous avez des remarques,
là.
Les aides de jeu sur TOC arriveront. On ne parlera pas de correction parce qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, vous avez des complémentaires. Allez-y, demandez, on traitera.
Bon, de mon côté, pour finir, je dirais que. Elle n'est plus linéaire, elle n'est plus teintée de blousons en sky et de générique
de
street, voilà, grise. Elle n'est mortelle que si on veut bien la laisser mortelle. Tous les chapitres sont jouables. Le fait est que vous allez acheter quelque chose que vous allez pouvoir jouer de la première à la dernière page.
C'est ça. Il n'y a pas d'ajout superflu. On a tout rendu utile et exploitable.
Donc on attendra bien sûr vos retours. Mais je pense que vous allez vous éclater, car moi, pour ma part, je la rejouerai.
Ouais, ça pareil.
Ah, pareil.
Je vous rejoins.
Et toc.